Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune ce vendredi. Habituellement, vous êtes là le dimanche. Oui. Et on va vous voir aussi vendredi.
Je suis très heureux d'être là. En tout cas.
Certains vont dire tant mieux. Ravi de vous retrouver, cher Geoffroy, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Il fait le vendredi, il fait le samedi, il fait le dimanche.
Ouais, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait encore les murs.
Julien Drey, quel plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué cette semaine. Le point sur l'information, on a beaucoup de thématiques. Vous étiez très en forme en coulisses. Julien, sur la vaccination des soignants, on va bien évidemment traiter ce sujet-là. Mais avant, on va commencer avec cette phrase. Tu vas la fermer. Et d'abord, le point sur l'info.
Au moins 15 civils tués dans un bombardement russe à Kherson, une ville située dans le sud de l'Ukraine où les troupes de Moscou se sont retirées il y a 2 semaines. La moitié des habitants de Kiev sont toujours privés d'électricité 2 jours après des frappes russes sur les infrastructures énergétiques. L'Allemagne et la France s'engagent à s'entraider pour garantir leur approvisionnement énergétique. Au moment où les prix flambent, les deux chefs de gouvernement, Elisabeth Borne et Olaf Scholz, ont signé à Berlin un accord de soutien mutuel. Des mesures concrètes sont prévues pour que la France aide l'Allemagne à réduire sa dépendance aux Russes via des livraisons de gaz. 76 parlementaires de la majorité demandent l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi. Ils ont signé une lettre adressée à Emmanuel Macron pour que, je cite, Gisèle Halimi puisse être la 7e femme au Panthéon et rejoindre sa sœur de lutte Simone Veil. Avocate, femme politique et écrivaine, Gisèle Halimi a fait de sa vie un combat pour le droit des femmes.
Mathieu, pour le point sur l'information, Mathieu Devez. Quelle pagaille à l'Assemblée nationale hier soir, une nouvelle fois. L'hémicycle s'est transformé en cours des miracles ou de récré, diront certains. Lors de l'examen d'une proposition de loi prévoyant la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid, sous condition d'un test négatif quotidien, la majorité relative étant en minorité réelle hier soir, a obstrué le débat en déposant plusieurs centaines d'amendements pour empêcher la tenue du vote. Symbole de ce nouveau tumulte, le député Servat, qui est en plus un ancien marcheur, ancien député de La République En Marche, désormais classé divers gauche, a asséné un « tu vas la fermer » à Sylvain Maillard. Revoyons cette séquence.
Je vous regarde, cher collègue, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous, réjoui. Vous êtes content d'avoir pu trouver... Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non. Chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas possible.
Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette séquence, Geoffroy Lejeune ? Est-ce qu'on doit retenir ce gouvernement qui refuse la contradiction ? C'est-à-dire en obstruant le débat, ou alors le « tu vas la fermer » d'un député.
Eh bien, je vais vous dire, le « tu vas la fermer », pour moi, c'est anecdotique au dernier degré dans cette histoire, parce que je pense que ce député est en train de dénoncer un réel scandale. À la limite, l'obstruction parlementaire du gouvernement, c'est ridicule, c'est un aveu de faiblesse, en fait, et puis ça veut dire qu'ils n'ont pas spécialement envie de débattre sur le fond de ce sujet-là. Parce que
c'est efficace.
Ça marche, hein, l'obstruction parlementaire, ça fonctionne. Il est en train d'expliquer, enfin, il est en train de proposer la réintégration des soignants, et le gouvernement, plutôt que d'aller sur le fond, répondre pourquoi ils ne sont pas d'accord, etc., et assumer quelque chose qui, à mon avis, est un scandale aux yeux de beaucoup de monde, décide d'utiliser ce qu'il appelle une mesquinerie. Il a parfaitement raison, et donc moi, je le soutiens à fond. Et le fait qu'il est. Alors, je vois déjà Julien.
Oui, j'ai hâte.
Dans l'état, quasiment
non,
en l'état.
C'est parce que. À vous. Le jeune, pour moi, c'est le représentant de l'ordre, du respect, de la loi,
merci.
Des textes.
Okay.
Il m'assène.
Il a le droit de vous couper.
Avec pédagogie, d'ailleurs, hein, et talent. Il m'assène régulièrement des leçons de morale, et là, bon. C'est une incarnade du vendredi soir.
Il vous a coupé.
Mais
vous lui dites pas, tu vas la fermer. Hein. Attention, ça se dispute, ça se respecte.
Mais jamais. Mais justement, débattons de ça. Est-ce que c'est un désordre de ne pas se faire vacciner ? C'est ça la vraie question. Vous me dites que je suis représentant de l'ordre et que là, je tolère le fait que les gens soient.
L'ordre au sens pas républicain au sens de certaines conceptions de l'ordre.
Mais non, mais c'est le vrai sujet de fond.
Moi, je suis pour l'ordre juste.
Le vrai, d'accord, mais moi aussi, enfin, je ne suis pas pour l'ordre injuste. Le vrai sujet de fond, Julien, c'est ça le problème. C'est pourquoi devrait-on sanctionner ces gens? Pourquoi devrait-on sanctionner ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qui justifie qu'ils soient encore ces 15 000 personnes non vaccinées dans l'incapacité d'exercer leur métier alors qu'on a besoin d'eux? Quel fanatisme faut-il au gouvernement pour maintenir cette sanction qui est purement une sanction d'orgueil parce que ces gens leur ont désobéi au moment où ils ont voulu imposer à tous les Français de se faire vacciner? Et aujourd'hui, alors que ce n'est plus un sujet, alors que ce n'est plus un motif de stress, alors qu'on a du recul sur cette maladie, en tout cas sur ce virus, alors qu'on a compris que la vaccination n'empêchait pas la transmission, alors qu'on a tous ces éléments, pourquoi faudrait-il maintenir ces gens la tête sous l'eau? La tête sous l'eau, c'est exactement ce qui passe. Vous me parlez d'ordre juste, on est justement dans le désordre injuste absolu.
Bon, alors, il y a plusieurs choses.
Ouais, normalement, c'était la forme et les soignants, la vaccination, devaient le faire après. Mais alors, là, vous êtes dans les starting blocks, je vous vois.
Il y a deux choses. Il y a le débat à l'Assemblée nationale et il y a le sujet de fond. Hein, d'accord.
Exactement.
Le débat à l'Assemblée nationale, moi, je regrette ce qui est en train de se passer à l'Assemblée depuis plusieurs semaines. Pas qu'aujourd'hui, c'est plusieurs semaines. Je pense qu'il y a une dégradation du débat politique et que l'Assemblée nationale, qui devrait être, au contraire, débattre sur le fond, avec y compris les moyens traditionnels, et je dirais entre guillemets d'obstruction parlementaire. Je l'ai pratiqué, donc je sais ce que ça veut dire. Il y a des mœurs, il y a une forme de haine maintenant dans les débats parlementaires qui devient insupportable.
Vous avez dit la haine, c'est fort.
Oui, je dis la haine, parce qu'on sent que ces gens-là ne se respectent plus. Voilà. Moi, j'ai écouté des joutes parlementaires, j'en ai conduites, on en a conduite contre moi, j'en ai conduite contre d'autres, mais il y avait un respect, je veux dire. Il y avait une forme de... on pouvait même après se parler une fois qu'on sortait de l'hémicycle, se dire bonjour, plaisanter, se respecter, parce qu'on était dans un cadre républicain et que la République était plus forte que tout pour nous. Là, on sent... que franchement, si on leur donne des pistolets, ils sont prêts à tirer. Hein.
Ils sont prêts. On peut en venir aux mains dans les semaines à venir. Ça va mal finir.
Donc je pense.
Vous avez raison.
Donc je pense premièrement qu'il y a une dégradation du débat politique qui est pas bonne, parce que c'est les mauvaises. Ça a des répercussions après pour tout.
Julien, pardon, je vous coupe. Moi, je suis d'accord absolument avec ce que vous avez dit, mais juste faut dire que c'est ça vient essentiellement des rangs de la France insoumise. Cette volonté de pas discuter après, etc.
Je suis d'accord pour dire qu'il y a un comportement de la France insoumise dans les débats parlementaires qui est, nous sommes, nous, les détenteurs de la vérité et tous les autres sont des traîtres ou des renégats.
Le sectarisme vient de là.
C'est en ce sens-là que je pense qu'ils se trompent. Parce que je pense que, par exemple, sur un certain nombre de sujets, ils peuvent faire avancer les choses. La preuve en a été donnée cette semaine avec le débat sur le droit à l'avortement.
On en parlera aussi.
Bien sûr, on en parlera. Donc je pense qu'ils se trompent. Voilà. Je pense que c'est lié à une forme de jeunesse, de juvénilité. C'est Lénine parlait de la maladie infantile du communisme comme ça. Bon, et qui n'est pas bonne. Et ça m'étonne d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, qui a été un parlementaire aguerri, n'ait pas compris cela. Alors, parce que quand il était dans l'hémicycle, ça se passe. Il savait doser. Il a pu y avoir des écarts, etc. Mais voilà, on n'est pas là. Voilà. Donc ça, je pense que ce n'est pas bien. Parce que par ailleurs, excusez-moi, mais je suis professeur dans une classe. Un député dit « tu la fermes ». Quand moi, je vais demander à un élève dans ma classe de ne pas parler comme ça, il va me dire « ouais, mais à l'Assemblée nationale, monsieur ». Alors je voyais, en plus, je prends le ton qui n'est pas bon d'ailleurs, qui est déplacé, je le reconnais.
Non mais on voit ce que vous voulez dire sur la forme. C'est-à-dire que c'est pas un bon exemple et que l'exemplarité, elle n'y est plus à l'Assemblée nationale.
Voilà.
La leçon a été faite.
Honnêtement, on est
sur la première chose.
On est sur un dérapage modéré parce qu'il est pas en train de l'insulter non plus.
Non, mais bon.
Ça reste
fermé.
Non, mais attendez.
Moi, je dis pas ça sur un plateau.
Non, mais vous dites pas ça sur un plateau. Mais par contre, vous lisez les comptes rendus des débats de l'Assemblée nationale sous la Troisième République, ça s'envoyait aussi du lourd quand même.
Oui, mais c'était. Moi, j'ai fait de l'obstruction parlementaire. Et d'ailleurs, je savais que j'en ai fait des débats tendus. Voilà, j'ai mené des débats où c'était sur les lois relatives à l'entrée au séjour des immigrés. Je peux vous dire que c'était pas dans la dentelle. Puis vous aviez des gens de qualité en face. Hein. Quand vous aviez Pierre Mazeaud ou Jacques Toubon, Jean-Louis Debré. Bon, voilà, je pense que là, je regarde. Hein, je parle pas que de cette séquence-là. Je passe en général. Je pense que c'est pas bon pour la démocratie. Voilà, je clôt la chose. Après, il y a le débat sur le fond. Moi, je pense que c'est normal qu'aujourd'hui, des soignants qui ont refusé de se faire vacciner à l'époque, c'est-à-dire au moment où on n'avait pas toutes les données que vous donnez vous aujourd'hui, ben je pense que par rapport aux autres, ben écoutez, moi j'aurais été soignant, j'avais des doutes, mais j'ai accepté de me faire vacciner à l'époque. Et puis maintenant me dire, bah finalement, tu vois, regarde la preuve, les autres ils ont gagné. Ben non, je suis pas d'accord avec ça. Alors, je vous ferai remarquer.
Désolé,
ce que je vous disais, c'était ça qui.
C'est pas les soignants, c'est pas les soignants vaccinés qui demandent que les soignants non vaccinés ne reviennent pas.
Moi, je pense qu'en tout cas, je peux vous dire que j'ai lu des déclarations de fédérations de soignants.
Fédération, c'est autre chose.
De fédérations, etc., qui disaient, si eux ils sont réintégrés, ben nous c'est nous qui allons nous en aller dans ces cas-là.
Ouais,
alors on en vient à la question de fond. On en vient et justement il y avait plein de réactions, mais comme vous voulez parler effectivement, de toute façon c'est le sujet majeur. Est-ce qu'il faut réintégrer ces soignants non vaccinés ? Je rappelle quand même que la France est l'un des seuls pays en Europe à maintenir cette suspension, qu'il y a plus de 4000 soignants.
Et parce que la France est le seul pays où le débat a eu lieu dans les termes dans lesquels il a eu lieu à l'époque.
Oui, j'ai quand même l'impression que...
Ne remettez pas les choses. À l'époque, on nous expliquait, on est le seul pays où il y a des manifestations anti-vaccins gigantesques.
C'est pas vrai.
Non, il y en a d'autres.
Non, il y a très peu. Vraiment, en Allemagne un petit peu, et encore...
Belgique, Pays-Bas, allez-y, il y avait des manifestations.
Non, mais si vous réécrire l'histoire...
Ah, mais moi, je veux rien réécrire, actuellement.
La France n'était pas... Écoutez, moi, j'ai plein d'amis à l'étranger qui me disent, mais les Français, vous êtes...
Ah bon ?
Voilà, ouais, qu'est-ce qui vous arrive, quoi ? Ils avaient raison.
Bon, 4000 soignants sont suspendus. Écoutez ça, parce que c'est une députée qui était aide-soignante à cette époque, et qui était sur le terrain, qui était en première ligne, avant qu'on ait la vaccination, qui allait, justement, dans les blocs, sans masque, sans blouse... avec l'art du système D, on demandait à ces soignants de travailler alors qu'ils étaient positifs au Covid. Et aujourd'hui, on a donc mis sur la touche 4000 soignants, alors qu'on le traite suffisamment dans sa dispute. L'hôpital est à bout de souffle. Donc regardez cette séquence.
Attendez, je vous arrête. Oh. Ça veut dire donc désormais, parce qu'on a des besoins, tout est permis.
Non, pas du tout.
Non.
Pas du tout.
Non, parce que si vous, parce qu'il faut que vous ayez une cohérence, une logique.
Mais moi, vous voulez que je vous réponde
Non. 30 secondes. Mais répondez-moi alors.
Eh bien, je sais ce que je vais vous répondre. Est-ce que ce vaccin empêche toute contamination ?
Vous ne le saviez pas à l'époque.
Non, mais maintenant, vous le savez.
Ah, bah d'accord. Donc maintenant, on juge les choses maintenant. À l'époque, on ne le savait pas.
Eh bien, oui.
Donc à l'époque, on ne savait pas.
Non, il y avait des arguments. Attendez, moi, je vais vous dire.
Il y en avait même qui nous expliquaient qu'il y avait des médicaments qui étaient formidables.
Julien.
Et on a découvert que ce n'était pas aussi terrible que ça.
Non, je vais vous raconter.
Moi-même, je suis tombé dans ce piège-là.
Moi, je vais vous raconter ma vie de non-vacciné. Mais je suis en empathie pour des bonnes raisons.
Ça me donne un élément d'explication.
Mais non, mais je vais vous raconter. J'ai été pro-vaccin au moment où on a su qu'il y aurait un vaccin. J'ai dit, c'est formidable. Mais je vous jure que c'est vrai. Je me souviens que juste avant, au moment de l'hiver 2021, on nous a dit, il y a un vaccin, ça va arriver, l'Europe s'organise, on va être livré, on aura les doses et c'est la fin de l'épidémie. Moi, j'étais comme tout le monde traumatisé par le confinement, traumatisé par la fermeture des restaurants, traumatisé par le fait qu'on ne pouvait pas circuler, etc., etc. Et je dis, alléluia, c'est formidable, merci, je suis même prêt à dire merci à l'Union européenne à ce moment-là. Et je vous jure, et je l'ai dit à la télévision, publiquement, etc., c'est notre seule chance, j'étais super content. Et dans la foulée, on nous annonce le pass vaccinal. Et le déclencheur chez beaucoup de gens... s'est passé, chronologiquement. On nous annonce, on a ce truc merveilleux, et d'ailleurs, vous allez être obligé de vous faire vacciner. À l'époque, ce qu'on savait, c'était qu'on pouvait se faire tester, on pouvait continuer à se faire tester quotidiennement. D'ailleurs, on était même obligé de le, enfin, quand on n'était pas vacciné, on était obligé de le faire. Donc, moi, je me dis à l'époque, c'est formidable, on a un vaccin, et si en plus on peut se faire tester par ailleurs, tout le monde peut se savoir contaminé ou pas, et plus personne ne prendra de risque. Et ils nous imposent le pass vaccinal. Et donc, à ce moment-là, il y a une obligation décrétée par l'État qui vous prive de votre liberté. Le rapport au vaccin, moi, je m'en fous complètement des vaccins, mais c'est un truc un peu intime.
Non, mais oui. Oui, toutes les digressions que vous êtes obligé de faire pour essayer de justifier ce qui n'est pas...
Moi, je vous donne un argument. Caroline Fiat.
Je ne savais pas que maintenant j'avais deux
interviews. Non, c'est vous qui m'avez interpellé, cher Julien. Ah, pour le coup, moi, je suis, vous le savez, je suis...
D'accord, mais la prochaine fois, je vais amener des copains.
Ah bah, allez, ramenez qui vous voulez. Il y a de la place sur le plateau. Il y a de la place. J'espère qu'ils seront vaccinés. Caroline Fiat.
Qui était en première ligne ? Comme vous. Moi. J'y étais. Et vous le savez. Et vu qu'il y a le ministre Véran à côté de vous, je vais vous rappeler que j'y étais sans masque, sans gants, sans blouse. Je vous rappelle aussi que quand le vaccin est arrivé, il fallait avoir plus de 50 ans pour y avoir droit. Que vous avez demandé à mes collègues de revenir travailler avec le Covid. Que ici même, vous nous faisiez la leçon en nous disant il faut que les soignants se vaccinent par altruisme. Vous pensez bien, les pauvres patients, on a entendu ça toute la journée.
Geoffroy Lejeune, qu'est-ce qu'on répond à Caroline Fiat ?
Bon, qu'elle n'a pas non plus fait verdun, il faut arrêter, hein, excusez-moi, mais le ton qu'elle emploie, c'est... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont travaillé, les soignants qui ont travaillé pendant la période du
confinement. Elle l'a fait, il faut être honnête.
Non, mais bien sûr, elle l'a fait, c'était son métier.
Elle a pris les risques, oui, mais elle n'était pas obligée. Elle aurait pu rester planquée.
Oui, non, mais bien sûr. Alors maintenant, je lui réponds qu'elle a raison de rappeler les incohérences, et c'est justement ce que j'essayais de dire à Julien. Mmh. Il y a eu tellement d'incohérences, de mensonges, d'arrogance de la part du gouvernement qu'au moment où on arrive en bout de course et que le vaccin est disponible et qu'on vous dit on a un vaccin qui est disponible, c'est génial, d'ailleurs, vous êtes obligé de vous faire vacciner, je comprends. Sur le plan, vous pourriez le comprendre d'ailleurs politiquement, mais je comprends sur le plan humain intime que beaucoup de gens se soient dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit « Qui êtes-vous, monsieur Véran, pour m'obliger, non, là, pour continuer à voir mes amis, pour continuer à aller au restaurant, pour continuer... » Non, non, Julien,
le débat,
l'opposition...
Vous avez plus de 500 000 infirmières,
la première
infirmières
manif...
soignants et soignantes,
c'est
personnels
le sujet.
Qui ont accepté... Mais de se faire vacciner.
Écoutez-moi.
Et pour certains, peut-être, avaient les mêmes doutes que vous.
Mais non, mais...
Mais parce qu'ils n'avaient pas de certitude par rapport à l'état de la maladie, ils disaient « je ne peux pas prendre de risque, vous, en tant que soignant ». Voilà.
Et vous ne pas pris. Non, voilà. Vous vous trompez. Le point de départ, la première manif...
Et ceux qui ne sont pas fait vacciner, ils ne savaient pas.
C'est faux.
Ils ne prenaient pas de risque.
La première manif...
À l'époque.
La première
manif... on peut dire maintenant, etc. Mais à l'époque, ils ne savaient pas.
La première manifestation dite anti-vax à Paris au mois de juillet 2021, c'est après l'annonce du pass vaccinal. Le point de départ de la contestation, c'est ça.
Mais c'est l'État. Pas le pass vaccinal qui met en cause.
Je sais, je vous explique l'opposition. Je vous explique les gens non vaccinés. En prenant mon exemple et celui de tous les gens que je connais qui ont fait la même chose. C'est parce qu'on nous a obligés à faire quelque chose alors qu'on n'avait pas confiance dans ce gouvernement. C'est politique à la base.
Que vous soyez, ce qui est une découverte, désobéissant par rapport...
je ne suis pas désobéissant. Et que, j'étais pas dans l'illégalité.
Mais ce que je veux dire...
C'était pas illégal ce que j'ai fait.
Je peux plaisanter un petit peu. Je me mets dans une autre situation. C'est ce qu'on disait dans les couloirs. Un professeur, un policier, qui dirait, moi, je salue plus ma hiérarchie parce que, voilà, je ne serre plus la main, etc. et tout. Ou je dirais, il faut qu'il soit sanctionné. Parce qu'à ce moment-là, sinon, la police, elle ne va plus fonctionner.
Mais quel est le rapport
si vous me dites après comme argument, oui, mais on a besoin de policiers, et lui, il accepte de faire policier, alors je le prends,
non.
Tout est possible.
Alors, je réponds à cet argument, je réponds exactement à votre argument. Un policier qui décide de ne plus obéir à sa hiérarchie et fait prendre un risque à ses collègues...
Et ben, quelqu'un qui...
Attendez.
À l'époque, un infirmier ou un infirmier, il s'est dit de ne pas vacciner, alors que sa hiérarchie était vaccinée et que pour la plupart des professeurs disaient à l'époque il faut se faire vacciner, même si on n'est pas sûr, parce qu'on ne peut pas prendre de risque.
Non.
Il disait à sa hiérarchie aussi.
J'imagine que vous avez été vacciné 7 doses ou 5 ou 6 ou 4.
J'attends la quatrième.
Ok.
Mais j'ai eu 3 fois le Covid.
Pendant toute la période où vous avez été vacciné et où je ne l'étais pas, j'étais obligé de me faire tester tous les jours pour pouvoir continuer à vivre. Donc tous les jours, je savais que j'étais négatif. Vous ne le saviez pas. Donc techniquement, j'ai fait prendre moins de risques, aux gens, en n'étant pas vacciné.
Je savais qu'avec le vaccin, je ne prenais pas de risques. Voilà.
La question du risque,
pourtant, puisque vous voulez rentrer dans l'intimité, j'ai des gens, moi, qui étaient très malades, qui étaient autour de moi, beaucoup d'amis, etc., et qui me disaient... Je ne te vois pas si tu n'es pas vacciné.
La traduction de Geoffroy Lejeune, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées ont dû, de fait, se faire tester. Et donc, quotidiennement,
tes responsabilités, oui. etc. Mais moi, je fais ce que je veux, et c'est pas grave si tu l'attrapes.
Non, c'est pas ça. C'est
que les vaccinés ont fait ce qu'ils voulaient, et finalement, ils ont prêté.
Non, les vaccinés, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Les vaccinés, ils ont fait la chose suivante, c'est qu'ils ont ils ont accepté l'idée que ce vaccin que vous vouliez ou non, parce que moi je veux bien que tous les autres là, vous êtes en train de me réécrire l'histoire, mais on était bien heureux de l'avoir ce vaccin, d'accord ? On avait bien été heureux de le trouver, et on a bien été heureux. Et regardez, il y a une comparaison qui est très simple. Les Chinois, je pense qu'ils auraient bien aimé avoir ce vaccin aujourd'hui. Parce que s'ils avaient ce vaccin-là, qui n'est pas très bon, je veux bien qu'on détruise tout et qu'on réécrive l'histoire et puis vive la Chine et vive l'URSS.
Je suis désolé, mais en fait, la question du vaccin, c'était d'empêcher les personnes vulnérables de tomber malades.
Ça a été le cas.
Très bien, moi, j'ai pas de problème. J'en veux à personne de se faire vacciner. C'est juste que vous avez obligé tous les autres.
Des milliards de gens sur la Terre.
Vous avez obligé tous les autres qui ne risquaient rien avec le Covid.
On ne le savait pas.
Mais on le savait très bien. On savait très bien.
On n'avait pas fait le vaccin à ce moment-là.
Autre question sur la vaccination et on continue. Sur les soignants. Parce que Emmanuel Macron a réagi au
service. Et c'est intéressant que ce soit le libre-service là-dessus. Parce que je pense qu'on aura d'autres débats dans les semaines à venir et je vous rappellerai votre libre-service.
C'est incomparable.
Autre question sur les soignants non vaccinés. Est-ce que c'est une question qui doit être réglée par les scientifiques ou par les politiques ? Emmanuel Macron a la réponse. Écoutez.
Ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant. Et donc, il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques aujourd'hui, et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique.
Courageux ou pragmatique?
Mais c'est l'inverse, il dit n'importe quoi.
Là, je suis d'accord.
C'est vraiment l'inverse.
C'est une décision politique.
C'est une décision absolument. Merci Julien, c'est une décision politique. Non mais enfin, et par ailleurs
Là, il se cache derrière les autorités.
Comme depuis le début.
Et c'est dur en même temps.
C'est dur. Mais comme temps. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant?
Ben non, moi, c'est une décision politique. Je vous le dis, je l'assume. Ouais. Voilà, je l'assume. Je pense que à partir du moment, je respecte la liberté individuelle. Je veux dire que des gens, Geoffroy veut pas se vacciner, c'est son droit. Mmh. Je lui serrerai la main, je lui dirai bonjour. Mais il va pas soigner, il va pas aller demain matin à l'hôpital soigner des personnes qui me sont chères et qui sont malades. S'il me dit je vais et je suis pas vacciné, je dis non, je suis pas d'accord.
Par ailleurs, il n'y a strictement aucun débat scientifique dans cette histoire. À partir, parce que je rappelle que sur la réintégration des soignants non vaccinés, dans la proposition qui a été faite, ils devaient quand même se faire tester tous les jours. Hein. C'est-à-dire que ce sont des gens dont on saura s'ils sont malades ou pas, s'ils portent, s'ils portent le virus ou pas. Bah oui, mais c'est toute la différence.
J'ai un cas de pratique à proposer à Julien Drey. Vous avez dit, j'ai pas envie que Geoffroy
soit en difficulté.
Non, j'ai pas envie que Geoffroy le jeune, qui n'est pas vacciné, puisse soigner. Des proches.
Je préférerais. Oui.
Demain, vous avez un soignant vacciné, triplement vacciné. La veille, il est sorti, il est allé dans des bars, il est allé en boîte de nuit. Ouais. Et vous avez à côté de ça.
Le risque, ça.
Attendez, vous avez à côté de ça un soignant non vacciné, mais qui s'est fait tester le matin.
Comment vous savez que celui qui est sorti et qui est vacciné, il a le Covid? Vous ne le savez pas.
Non, j'en sais rien.
Elle ne le savait pas. Voilà. Donc, on a pris les protections.
Julien, là, vous savez, vous n'avez pas écouté la question.
Je connais cette démonstration. En philosophie, ça s'appelle les démonstrations par l'absurde.
Ah, moi, c'est.
Mais attendez,
il n'y a rien d'absurde. C'est du bon sens.
Non, c'est pas du bon sens.
Alors, pardon. Parce que quand. Si je puis me permettre de faire le passeur.
Je vais
animer ce débat à mon tour.
Heureusement que je suis lourd.
Non, mais je vais me permettre d'animer votre débat. En fait, vous n'avez pas écouté la question jusqu'au bout. Elliot dit celui qui est sorti, on ne sait pas s'il a le Covid. En revanche, celui qui vient vous soigner, qui n'est pas vacciné, qui s'est fait tester le matin, on sait qu'il est négatif. C'est ça la question, Julien, répondez.
Non, la question, elle est la suivante. Il y a toujours une exception qui justifie, qui permet de détourner la règle. C'est ce que j'appelle le raisonnement par l'absurde. On avait pris la décision, c'est-à-dire la collectivité, et c'est une décision politique qui a été prise à partir d'une consultation médicale. Mais vous pouvez rigoler, Elliot. C'est moi qui ai raison dans cette affaire-là. Parce que demain, dans n'importe quelle autre situation, vous verrez des gens qui diront « Ah ben nous, on ne respecte plus les règles ». C'est notre liberté individuelle. Et là, on va rigoler. Alors à ce moment-là, vous viendrez me faire la leçon sur le plateau. En disant, comment je viendrai? Vous pouvez accepter que... Etc, etc.
Mais en fait, voilà. Vous ne comprenez toujours pas que, vacciné ou pas vacciné, vous étiez dans la même situation par rapport au Covid.
On avait, à l'époque, quand même des éléments qui nous montraient que ceux qui étaient vaccinés, ils étaient moins contagieux et ils étaient plus protecteurs.
On avait des éléments.
Sinon, on n'aurait pas vacciné les gens.
Mais vous plaisantez, mais je ne connais pas un seul vacciné qui n'a pas eu le Covid.
Il ne fallait pas faire la recherche du vaccin. Vous dites vous-même que vous étiez pour le vaccin.
Ah mais quand j'ai cru ce qu'on m'avait dit.
Mais moi, je crois toujours, je suis revenu
à la raison.
Aujourd'hui, vous pensez que le vaccin ne servait à rien.
Mais est-ce que vous connaissez une seule personne vaccinée qui n'a pas eu le Covid après son vaccin?
Mais on a eu des petites formes.
On
a eu des petites formes. J'ai des amis à moi qui n'étaient pas vaccinés, qui ont fait les marioles pendant tout un temps, en disant regarde. Et un jour, ils ont été rattrapés et ils ont eu un sacré.
Vous avez raison, c'est dingue de voir d'ailleurs à quel point, alors que ça fait 2 ans désormais de crise sanitaire, vous avez encore une ligne, vraiment une frontière entre ceux qui.
Mais non, il n'y a pas de ligne, c'est parce que ça a donné lieu, sur le fond, il n'y a pas de ligne. Ça a donné lieu à un débat parce que la France insoumise. Qui saute sur toutes les occasions possibles, comme on dit, à déposer un texte de loi. Je pense que ça, c'est une décision politique.
Pour les milliers de personnes qui ne peuvent pas bosser depuis,
il n'y a pas de milliers. Là, on parle de 500 personnes. La plupart de celles qui ont refusé de se faire vacciner ont quitté la profession.
4000 soignants suspendus.
D'accord, mais aujourd'hui, le nombre de soignants qui voudraient réintégrer s'élève à 500 ou 600. Regardez vos dépêches AFP.
Juste parce que vous savez pourquoi, parce qu'on avait plein de thèmes dans la première mi-temps. On n'a fait que les soignants. J'en étais sûr.
Pardon.
Alors, est-ce qu'après la publicité, vous voulez qu'on parle un peu de l'IVG et de la corrida? On avance. Il y a d'autres thématiques.
Moi, je suis à votre disposition.
Non, mais qu'est-ce que vous
savez? Vous êtes le maître de la séance.
Mais évidemment que je suis maître de rien. Moi, je passe.
En passeur, c'était vous aussi un maître.
Vous pensez que je suis vacciné ou pas, Julien Drey?
Je pense que vous êtes vacciné.
Mais je vous le dirai pas. La publicité.
Moi, je sais que vous êtes vacciné.
La deuxième mi-temps de Ça se dispute avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Mouvementée la première partie sur la vaccination des soignants. Est-ce qu'il faut les réintégrer ou non?
Viril mais courtois.
Exactement. Comme le rugby. Viril Mercourt.
Comme l'Assemblée avant.
Comme l'Assemblée fut un temps. On parlera, tiens, juste après le point sur l'information, très rapidement de la corrida, tout ça pour ça. Il y a eu énormément des heures de débat, que ce soit sur les plateaux et en coulisses, et finalement rien. Donc on en parlera très rapidement et ensuite on va rejoindre Bruxelles parce que Florian Tardif nous attend. Bruxelles, très important, réunion de crise des ministres de l'Intérieur autour de la question migratoire. Est-ce qu'il y a eu un consensus trouvé? Est-ce qu'il y a eu un accord trouvé entre la France et l'Italie? Alors que Gérald Darmanin a quand même parlé de l'Italie comme un ennemi cette semaine. Donc ça aussi, on va se poser cette question. Mais avant, 19h30, le point sur l'info.
Une marche blanche organisée à Tonneins dans le Lot-et-Garonne en mémoire de Vanessa. Il y a une semaine, la collégienne de 14 ans a été enlevée, violée puis tuée. Le principal suspect est un homme de 31 ans. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le nombre de chômeurs en France en baisse de 1% au mois d'octobre. Selon les chiffres du ministère du Travail, ce sont 30 500 chômeurs en moins par rapport à septembre. Dans le détail, ils sont plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans activité. En incluant l'activité réduite, les catégories B et C, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à plus de 5 400 000. Enfin, le Qatar, déjà éliminé de sa Coupe du Monde de football, le match nul 1 partout entre les Pays-Bas et l'Équateur a condamné le pays hôte. Plus tôt dans l'après-midi, le Qatar a été battu 3-1 par le Sénégal. Il devient le premier pays organisateur de la Coupe du Monde à quitter la compétition dès la deuxième journée de la phase de groupe.
Pour le point sur l'information de Mathieu Devez, le cirque, acte 2, puisqu'on a commencé avec ces tensions à l'Assemblée nationale, cette fois autour de la corrida. Le député LFI, Émeric Caron, a retiré jeudi son texte sur l'interdiction de la corrida. Il devait être examiné ce même jour et il a plaidé l'obstruction parlementaire. Regardez Émeric Caron.
C'est une évidence, ça me coûte de le reconnaître. Oui, ça me navre. Et je tiens à m'en excuser auprès de celles et ceux qui ont tellement compté sur nous pour obtenir une victoire historique. Mais je dois bien me rendre à l'évidence. Nous ne pourrons pas abolir la corrida en France aujourd'hui.
Geoffroy Lejeune, tout ça pour ça. Bon, alors personne n'est dupe, parce que ce n'est pas l'obstruction le problème, c'est le fait que jamais ça aurait été voté, finalement, à l'Assemblée nationale.
Moi, ce qui me choque le plus dans les images qu'on vient de voir, c'est de le voir se prendre pour Badinter avec avec une grandiloquence insupportable, alors qu'il voulait simplement abolir la corrida. Puis l'autre chose qui m'a frappé dans ce débat, pour être très rapide, c'est en fait, je sais qu'il y a une majorité de l'opinion française qui veut abolir la corrida, mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a une immense majorité des gens concernés, c'est-à-dire des gens qui vivent là où la corrida existe, qui veulent la garder. Et en fait, c'est un paradoxe démocratique, si vous voulez, c'est que si on organisait des référendums locaux, elle serait jamais abolie. Si on organise un référendum en France ou si on écoute l'opinion majoritaire, elle le sera. Et ça pose un problème en réalité.
Julien Drey.
C'est un sujet pas compliqué, mais qui, moi, me perturbe. Pourquoi ? Parce que j'aime pas la corrida. Voilà, je suis pas rentré dans le spectacle de la corrida. Avant de prendre une décision, j'ai été emmené d'ailleurs par un ami à moi en voir une qui m'a tout expliqué, les rôles des uns, des autres, l'histoire. Mais j'ai pas aimé. Voilà. Mais en même temps, je comprends qu'on puisse, à un moment donné, considérer que c'est un art, c'est un spectacle, donc je suis pas convaincu que passer en force par un texte législatif soit forcément très intelligent, d'autant que ceux qui défendaient la corrida du point de vue de l'histoire, notamment en Espagne, n'étaient pas forcément les anti-républicains. Y compris la corrida était un enjeu en Espagne là-dessus, sur la manière de torer, etc. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais. Donc, je ne suis pas convaincu que ça passait par un texte législatif avec une bataille de tranchées, difficile que ça. Et l'argument qui me rebute un peu, c'est l'argument sur la violence animale, parce que moi, je veux bien c'est ça qui m'a rebuté, hein. C'est évidemment la fin, quoi, hein. Et le toréador, évidemment, avec le rapport de force qui a été créé par les picadors, etc. Mais franchement, la violence, aller dans des abattoirs et aller voir les petits veaux,
évidemment.
Parce que les petits veaux, ils sentent quelque chose, hein.
Bien sûr.
Ils tremblent, etc., quand ils vont dans les abattoirs, etc. Bon. C'est comme les écrevisses.
On peut en faire une liste.
Et quand vous jetez les écrevisses dans l'eau bouillante, faut pas croire que ça. Voilà, donc c'est pour ça que la violence. Bon,
tout se mouille de toute façon pour pas grand-chose, puis qu'il n'y a même pas eu de débat à l'Assemblée nationale. On n'a pas entendu les partis sur ce sujet-là.
Bon résumé de la carrière politique d'Émeric Caron.
Ouais. Écoutez, c'est que le début. Il y a à peine quelques mois qu'il est député. Avançons. thème majeur ce vendredi et à propos de la crise migratoire. Réunion de crise à Bruxelles autour de la question migratoire, je le disais. Les ministres de l'Intérieur des 27 États membres se sont retrouvés pour élaborer un nouveau plan. Le fiasco de l'Ocean Viking et les tensions entre la France et l'Italie symbolisent l'incapacité de l'Europe à protéger ses frontières. Sur les 10 derniers mois de l'année, 1 000 entrées irrégulières ont été détectées aux frontières extérieures de l'Europe. Florian Tardif, vous êtes avec nous, vous êtes depuis Bruxelles, vous avez suivi ce sommet. Il y a les relations évidemment au cœur de ce sommet entre la France et l'Italie. Est-ce que Gérald Darmanin cherche en quelque sorte à sortir de cette crise avec nos voisins italiens?
Oui, tout à fait, Elliot. Disons qu'il y a eu un léger réchauffement des relations entre Paris et Rome cet après-midi. Le principal enjeu de cette réunion, pour faire court, était le respect par l'ensemble des États membres de cet accord qui a été conclu il y a peu sur la relocalisation des migrants. Alors concrètement, les pays d'arrivée, l'Italie en l'occurrence, doit accueillir, enregistrer les demandes des demandeurs d'asile. Et ensuite, il y a une répartition des réfugiés entre les États membres. Tout cela n'étant pas respecté, Gérald Darmanin a expliqué durant cette réunion que la France ne prendra plus aucun migrant des pays qui ne respectent pas cet accord. L'Italie était clairement visée à ce moment-là. L'Italie qui s'est montrée, par la voix du ministre de l'Intérieur, de son ministre de l'Intérieur, ouverte à un renforcement de la coopération entre les États en soutenant un code de bonne conduite pour les ONG, soutenu également par la France, dont la responsabilité, hein, vous allez très certainement en parler, est régulièrement pointée du doigt concernant la pression migratoire qui s'exerce sur les pays du Sud, le ministre de l'Intérieur, qui, pour finir, a invité son homologue italien à venir prochainement sur Paris avant la mi-décembre afin de poursuivre les discussions à ce sujet.
Merci beaucoup, Florian Tardif. On a quand même vécu une semaine particulière avec la déclaration de Gérald Darmanin qui a quand même dit parler d'ennemis en lien avec l'Italie. Est-ce que la question migratoire peut se régler à l'échelle européenne? Vous y croyez, Geoffroy Lejeune, ou pas?
Ce serait possible dans un monde où les gens seraient sérieux. En fait, là, ce qui me frappe dans le compte-rendu qui nous est fait de cette réunion, c'est que on a le sentiment que la compétence européenne en matière d'immigration, c'est la répartition des migrants qui arrivent, qui sont déjà là. Mais en réalité, la vraie compétence de l'Union européenne, la compétence géographique, ça devrait être de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Et après, il peut exister des accords entre les pays, etc., ou voir des accords au niveau européen. Mais il y a une tartufferie géante dans ce sujet, c'est que il y a quelques mois, le patron de Frontex, qui était un Français, avait posé la question soutenue par 16 ministres de l'Intérieur de pays européens. C'est-à-dire que c'était pas une petite partie de l'Europe. C'était très important. Et avait demandé à la Commission quel était le rôle spécifique de Frontex, qu'on croyait, nous, le grand public, être le gendarme de l'Europe, c'était le surnom, c'est-à-dire des gens qui patrouillent, qui surveillent qu'il n'y a pas d'embarcation illégale, qui franchissent, etc. Il n'a jamais obtenu de réponse. Il a donc démissionné, et aujourd'hui, Frontex n'est plus une agence qui permet le refoulement, qui par ailleurs est interdit par la Convention de Genève, ça n'est plus une agence qui permet le refoulement des embarcations de clandestins illégaux, c'est une agence d'accueil en réalité, donc c'est pour ça qu'on fait des accords de coopération pour savoir comment on va se répartir la misère du monde, comme disait Rocard, qui arrive chez nous. Donc il faut sortir de cette hypocrisie. Tout accord pour la répartition des migrants ne règle absolument pas le problème des entrées, qui est le seul problème auquel on a à faire face et qui pourrait être la compétence de l'Union européenne.
Je viendrai.
Pour régler la question migratoire, est-ce qu'on a besoin de l'Europe? La réponse est oui. On a besoin de l'Europe, on a besoin d'une bonne coordination européenne. Maintenant, vous avez le problème qui est posé, c'est que dans cette coopération européenne, pendant tout un temps, on s'est défaussé sur l'Italie. Et donc, il y a une colère italienne qui, pour une part, est fondée. Parce que vous voyez bien d'ailleurs, même dans la répartition telle qu'elle est faite, ça traîne des pieds après. C'est-à-dire quand vous avez accepté de recevoir un certain nombre de migrants, puisque c'est ça la répartition, ben vous ne précipitez pas pour les accueillir. Et donc les Italiens sont en colère parce qu'ils savent bien qu'une fois que les choses traînent, ben il y a des gens s'évadent dans les camps et qui ne peuvent pas tout contrôler et que finalement c'est une pression qui s'exerce sur leur pays. Donc je pensais que c'était pas malin de prendre en otage les migrants par rapport à une situation, par rapport aux migrants qui étaient dans les bateaux, par rapport à une situation qui était une situation de coopération européenne. Ma réponse est qu'il faut une coopération européenne et que de ce point de vue-là, ça sert à rien de faire de l'agitation médiatique en essayant de croire que on va prendre les opinions à témoin, parce qu'on a besoin, on le voit bien. De fait, ils vont être obligés de se mettre autour d'une table et de négocier. Après, il faudra, parce que ça, on est dans l'urgence. Il faut un plan, notamment un plan méditerranéen qui permette de gérer ces flux migratoires. tant qu'il n'y aura pas une coordination avec un plan méditerranéen qui s'attaque aux racines du mal, au réseau de passeurs, à la corruption des polices locales, etc., on n'avancera pas.
Et au contrôle des ONG, puisque justement, tous les ministres se sont accordés pour dire qu'il va falloir un peu plus contrôler ces ONG qui parfois jouent un jeu dangereux avec les passeurs. Oui, écoutez, bah, Alexandre Delval, tiens, réaction d'Alexandre Delval, on commence le débat sur les ONG dans un instant, mais c'était cet après-midi sur notre antenne.
Est-ce que vous savez que les ONG, il y a quelques années, les ONG ont refusé de signer une charte qui leur demandait justement de se conformer aux droits et notamment à respecter les gardes-frontières? Il faut savoir que à plusieurs reprises, des bateaux affrétés qui coûtent 15 000 euros par jour ont même menacé des gardes-frontières en leur rentrant dedans. En Italie, ça a beaucoup choqué l'opinion publique, des gardes-frontières qui sont tout à fait dans la légalité et des gros bateaux qui leur fonçaient dessus. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inadmissible, dont la presse des services publics français ne parle jamais. Hein, on ne montre jamais ce qui ne va pas, et c'est toujours cette idée d'essentialiser le migrant par toutes les...
C'est un enjeu majeur, Geoffroy Lejeune, contrôler ces ONG, savoir quelles sont leurs actions, ça ne montrait pas de blanche, évidemment, dans leurs activités.
Évidemment, c'est une énorme partie du problème. J'ai l'impression simplement que la volonté n'y est pas. J'entends parler dans le compte-rendu de la réunion qu'on a entendu tout à l'heure dans la bouche de Florian Tardif que on va contrôler la bonne conduite des ONG. Pardon, mais ces gens sont et je vais peser mes mots parce que ils attaquent en justice à chaque fois qu'on parle d'eux.
Oui, alors,
ces gens sont extrêmement dangereux et sont des acteurs de ce drame, de ce trafic. Je crois que SOS Méditerranée a fait condamner Christophe Cassamer quand il était ministre de l'Intérieur qui les avait accusés d'être les complices des passeurs. En réalité, elles sont déjà extrêmement intelligentes, extrêmement dissimulées. On sait par exemple que le seul moyen que des ONG ramassent des migrants, enfin ramassent, c'est pas exactement le terme, mais repêchent des migrants dans la mer qui sont en train de se noyer parce qu'ils ont sauté de leur embarcation, c'est de connaître les coordonnées GPS des bateaux, etc. En fait, il y a une forme d'entente un peu passive, mais tellement bien faite qu'il est impossible de la tracer. Donc en réalité, avec toute la bonne volonté du monde, on n'a toujours pas réussi. Je vois pas tellement comment on va pouvoir faire. Il y a une solution que je vois qui n'est jamais évoquée, et ça me désole. C'est la solution australienne, c'est-à-dire d'empêcher le passage. Et au moment où le passage se fait, de refuser l'arrivée dans un port. C'est-à-dire que le bateau retourne en Afrique, comme disait le député qui a été viré de l'Assemblée. Mais il avait raison sur le
fond. Grégoire de Fournasse, qu'est-ce qu'on en fait des ONG, Julien Drey? Pourquoi vous faites la moue?
Non, parce que je regarde l'Australie, et j'essaie de voir par où les bateaux arrivent, par rapport à votre démonstration. Bon, mais je vois pas bien.
Par la mer, Julien.
Oui, je me doute bien que c'est par la mer. Parce que l'Australie est une île.
Oui, bah,
j'ai appris ça à la géographie quand même.
D'accord, mais en fait,
les bateaux, ils viennent d'où?
Mais en fait, quand ils arrivent en Italie, ils viennent par la mer. Quand ils arrivent à Toulon, ils arrivent par la mer. C'est la même chose.
Vous avez pris l'exemple australien.
Mais je comprends.
En disant, il faut reprendre l'exemple australien. Oui. Parce que les hommes australiens, ils raccompagnent les bateaux dans leur port d'origine.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit leur campagne de communication et leurs actions sont tellement claires que quand un bateau arrive, il ne peut pas accoster et il repart. Donc,
je vais regarder. J'étais pas au courant.
Ah bah non, mais je vous promets. Ils ont fait leur campagne de communication s'appelle No Way. Il y a un bateau avec marqué No Way. Figurez-vous que maintenant, plus personne ne traverse et plus personne se noie.
Je pense que l'Australie a moins de problèmes que nous. Du point de vue des flux, parce que c'est pas simple d'arriver en bateau en Australie.
D'accord.
C'est comme ça. Spontanément, je me suis.
Je veux dire, c'est juste, si on avait
regardé.
Je vais regarder différemment. Si on avait regardé en Tunisie ou en Libye, eh ben, ils seraient peut-être moins revenus.
Je pense que quand vous avez des milliers de frontières maritimes comme nous les avons, avec des distances qui sont à la fois importantes mais pas si importantes que ça, c'est pas aussi simple que ça d'empêcher toutes les migrations maritimes.
Moi, je demande juste qu'on essaye.
Bon, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je veux bien qu'on regarde les ONG, mais. Pour l'instant, les démonstrations que vous m'avez faites, les uns et les autres, dans ces débats, dans les ONG, on sait, je regarde, j'attends. Moi, je suis plutôt partie prenante de l'idée d'un code de bonne conduite et d'une vérification de cette bonne conduite. La plupart du temps, ça fait plouf. Et moi, je comprends qu'une ONG fasse condamner un ministre de l'Intérieur quand elle est accusée d'être complice des passeurs, parce que elle n'a pas l'impression, les gens qui sont sur ces bateaux-là et qui rigolent pas, j'ai un certain nombre d'amis qui ont été faire des missions et qui m'ont dit que c'est des conditions très dures de vie, de travail, etc. Ils ont pas envie d'être accusés d'être complice des passeurs. Voilà. Mais on va avancer sur cette histoire, parce que moi, personnellement, je vais demander Je pense que viendra avec moi à rencontrer un certain nombre d'organisations d'ONG.
Avec grand
plaisir. Parce que comme j'entends beaucoup de choses,
je pense que vous serez mieux accueilli.
J'aime bien. Oui. Moi, je suis comme Saint Thomas. Je crois ce que je vois.
Oui.
Hein, on va discuter. Parce que déjà,
je pense,
je vous donne quelques détails sur l'Australie. Oui, pardonnez-moi.
Je pense qu'ils vous montreront pas le moment où ils vont s'entendre avec les passeurs pour faire monter des migrants. Bah ouais, mais désolé.
Pas né de la dernière pluie, donc.
Ah ouais, mais bon, Julien.
On va regarder.
Je vous permets de répondre à vos questions sur l'Australie. Cette campagne, elle date de 2013-2014.
Il y a 9 ans.
Ça fait 9 ans et effectivement,
les flux rentrent et j'ai oublié.
Bien sûr. Mais autre chose, c'est les candidats qui faisaient cette traversée, principalement étaient afghans, iraniens, venus d'Irak et du Sri Lanka. Voilà pour les préciser.
Oui, mais de mon regarder.
Oui, voilà.
J'ai pas de mémoire l'idée d'embarcation frêle comme celle qu'on a en Méditerranée, oui, qui a costé en Australie.
Non, mais j'ai regardé. Mais le Ocean Viking, c'est pas une embarcation frêle.
Non, mais au départ, le Ocean Viking, elle a recueilli des gens qui étaient dans un bien.
Oui, d'accord. Mais bon.
Elle n'a pas été chercher à Tripoli et les a pas amenés.
Sondage CSA CNews sur la politique migratoire cette semaine. À la question que le gouvernement, est-ce que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l'immigration en France, 77% qui considèrent que le gouvernement échoue, 23% qu'il réussit. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir en fonction des proximités politiques. Et là, c'est fascinant. La France insoumise, 71% des sympathisants de la France insoumise considèrent que le gouvernement échoue, 63% du côté des Verts, 94% du côté du Rassemblement national et surtout 61% des sympathisants macronistes, 61%. Donc en fait, c'est un fiasco total. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ouais, moi, j'ai un message de compassion et de solidarité pour les 23% qui pensent que le gouvernement réussit. J'aimerais savoir où ils vont chercher ce flux d'espoir. Et ensuite, surtout, ce qui est intéressant politiquement, c'est que on a souvent dit que l'immigration était un sujet clivant, que les gens qui en parlaient étaient des personnalités clivantes, dures, agressives, etc. En réalité, on réalise que c'est un des sujets qui rassemble le plus les Français. Contre l'immigration, on peut faire une majorité électorale.
Oui, enfin, je pense qu'il y a 5 ans, Julien Drey dit on va rendre la vie impossible aux OQTF sur le plateau. Je me demande s'il n'est pas attaqué en justice.
Mais ça, c'est absolument.
Non, mais la question qui est posée, moi, j'aurais répondu oui, je pense que le gouvernement échoue. Mm-hmm. Mais bon, je ne vais pas non plus. Ça fait pas une communion entre nous. Bon, il y a un échec, mais moi, dans cet échec, je pense que c'est parce que les politiques sont mauvaises. Voilà. C'est ça la question qui est posée.
Ouais, mais ce qui est
pas les migrants que je désigne à la vindicte populaire. C'est les gouvernements qui ne sont pas capables de mettre en place des quotas, des maîtrises des filières, qui ne sont pas capables de réformer le droit d'asile pour le restaurer comme un vrai droit d'asile. Voilà, c'est ça que je mets en cause.
Mais oui, mais moi, on n'est évidemment pas d'accord sur l'immigration et on pourrait en débattre des heures, etc. Mais s'ils faisaient rien que ce que vous avez dit, c'est-à-dire s'ils prenaient la partie qui fait plaisir à Julien Drey, moi déjà, je serais content.
Autre thématique, vous savez, c'est un peu.
On va se préparer à une opération politique.
L'émission est un peu bousculée parce qu'on a passé la première partie sur les soignants. Je veux qu'on parle de Paris un petit peu, juste très rapidement. Il nous reste exactement 5 minutes d'émission. Pourquoi Paris? Parce que les caisses sont vides à Paris. Et l'inquiétude, c'est que la ville soit mise sous tutelle par l'État. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du Figaro magazine ce matin. Anne Hidalgo en grande difficulté. Sa ville a une dette de 7,7 milliards d'euros. La maire de Paris a annoncé il y a quelques jours l'augmentation de la taxe foncière de 52%. Mais alors vous allez entendre le premier adjoint à la mairie, qui est donc M. Grégoire, élu communiste. Pour lui, tout va bien. Écoutez.
Non, il n'est pas communiste, M. Grégoire.
Je crois qu'il est
apparenté communiste.
Non, pas du tout. Il est socialiste.
Les Verts, socialiste, pardonnez-moi. Alors on l'écoute.
Elle va très bien, la ville de Paris. La ville de Paris, elle a une dette de 7,75 milliards d'euros. Elle a des actifs qui sont passés. Les actifs, nous sommes propriétaires. Nous, quand nous faisons de la dette, quand nous investissons dans la pierre. Ouais. Nos actifs de la ville de Paris, l'argent des Parisiens, ouais, c'est passé de 20 milliards
mais la dette
en 2014.
La dette a augmenté, elle a explosé.
20 milliards
quoi.
Ouais. À plus de 40 milliards de valeur d'actifs. Ouais. C'est-à-dire que nous avons augmenté la dette et en parallèle, les actifs immobiliers, la valeur de ce que nous achetons a augmenté beaucoup plus vite. En réalité, avec l'endettement, les Parisiens se sont largement enrichis.
Elle va bien, la ville de Paris.
Non, mais pour y vivre et pour y travailler, pardon, il est très touchant, ce monsieur. Mais c'est un dépotoir à ciel ouvert, colonisé par les rats, en travaux depuis maintenant 5-6 ans de manière assez outrancière. Enfin, je veux dire, c'est quand même partout, tout le temps, dans lequel on peut plus circuler et dans lequel on voit de la pauvreté partout et une insécurité grandissante. Moi, j'ai fait mon bilan. Je suis pas spécialement friand de ce genre de choses dans la vie courante, mais par contre, la mise sous tutelle par l'État de la ville de Paris, ça serait pour moi une excellente nouvelle. Je vous offre le champagne le jour où c'est fait.
Bon, d'abord, je suis contre les mises sous tutelle, parce qu'une fois que ça commence, ça veut dire que ça va généraliser. Il y a des électrices, il y a des électeurs, ils ont voté, il y avait un choix démocratique. J'entends beaucoup de gens reprocher beaucoup de choses à la ville de Paris, je leur fais remarquer qu'ils ne sont pas venus voter. Mmh. Et que s'ils étaient venus voter, les choix auraient été différents.
Ouais. Voilà. Bah, ils l'ont sanctionné pour la présidentielle.
D'accord, mais...
Ah, mais c'est vrai, Julien a raison, le vote à Paris, c'est vrai.
Je peux rien, il y a des élections municipales.
Je suis d'accord.
C'est pas la présidentielle qui comptait, c'était aux élections municipales, il fallait venir voter. Mm. Et si bon, on me dit plein de choses sur la maire de Paris, d'accord, mais ils ont voté. J'ajoute même qu'elle s'est d'autant plus présentée à la présidentielle qu'elle se revendiquait du score qu'elle avait fait aux élections municipales. Mm-hmm. J'étais à l'époque encore au Parti Socialiste, donc je me souviens de l'argument qui avait été avancé. Voilà, donc,
c'est vrai que l'abstention n'est même pas une excuse, parce que les autres ont fait moins qu'elle. Quoi, donc,
voilà. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'alternative politique à l'époque où on a envoyé n'importe quoi. Bon, excusez-moi, mais vous vous souvenez des
Il y avait Rachida Dati quand même.
Voilà, alors après, il y a effectivement, moi je ne veux pas me faire le défenseur de choses auxquelles je pointe moi-même des choses que je pèse moi-même. Je pense que sur la propreté, il y a des choses à faire qui ne sont pas faites. Je pense que c'est vrai que c'est une ville où il y a beaucoup de... je ne sais plus comment on les appelle, les rats. Maintenant, il y a un terme...
Surmulot.
Bon, l'argument qui a été avancé, c'est qu'on n'employait plus les produits qui pouvaient, toxiques qui pouvaient les tuer parce qu'il y a des normes. Enfin, moi, je trouve ça complètement déplacé. Sur la circulation, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, bon, ils s'apprêtent eux-mêmes à reconnaître qu'ils vont être obligés de légiférer sur les trottinettes. Parce que franchement... aujourd'hui, conduire dans Paris, et moi je plains les chauffeurs de taxi.
C'est le parcours du combattant.
C'est les chauffeurs de taxi, je prends les transports en commun, etc. C'est l'horreur. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc effectivement, il y a des choses à corriger et je pense qu'il faudrait les corriger vite. Alors après, je dois dire honnêtement, j'ai pas bien compris la démonstration qu'a fait le premier adjoint de Paris sur l'endettement et les actifs. Parce que bon, à ce moment-là, dans ces cas-là, vous éteignez votre dette et vous vendez vos actifs. Si vous en avez autant que ça et que vous êtes aussi riche, vous vendez. Comme ça, ça vous évite de vous endetter et ça vous évite d'augmenter.
Quand je vous parlais des résultats à la présidentielle, on avait mis la focale sur Paris. Pourquoi ? Parce que à Paris, 23 000 personnes ont voté pour Anne Hidalgo contre 380 000 pour Emmanuel Macron à la présidentielle. C'est ça qui est intéressant. Mais passons, il nous reste 30 secondes. Paris a connu 4 maires. Jacques Chirac, Thibéry, Delanoë. Anne Hidalgo, est-ce que c'est la pire maire de Paris que pour l'instant la capitale ait eue ?
Ah oui, c'est le problème.
Disons que du point de vue de ce qui se passe dans Paris, résultats. C'est vrai que c'est celle qui est le plus contestée. Bon, après, il faut être honnête, moi je ne suis pas un fan de sa politique de transport, etc. Mais elle assume ses choix. Moi, Dieu sait si je ne suis pas un fan.
Non, mais il faut lui reconnaître une radicalité vraiment jusqu'au boutiste. Mais par contre, je pense que ça restera un mauvais souvenir. Je le dis, moi par exemple, j'aimais bien Delanoë alors que je n'étais pas de gauche, mais...
Merci à tous les deux, c'est terminé. La première partie était très animée, la seconde un peu plus calme, mais c'est
parce
ça
qu'on
qui
n'a pas parlé des vélos.
Écoutez, vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr, CNews Replay. Vous pouvez regarder aussi toutes les informations sur CNews. Je remercie toutes les équipes qui ont préparé cette émission et notamment Laura Tapiro. Dans un instant, c'est Julien Pasquier pour l'heure des Pro 2. Et nous, à 22h, on se retrouve. On va parler longuement des vaccins, justement, de la vaccination des soignants. Est-ce qu'il faut réintégrer ces soignants? Si vous avez manqué la première partie, deux options, cnews.fr, le replay. Ou alors, vous venez à 22h pour Soir Info. À tout à l'heure.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.